soir, à quelques jours de la clôture des travaux des concertations nationales, certains délégués de l'opposition proposent notamment la gestion consensuelle de l'État pour renforcer la cohésion nationale. Quelle lecture faire de cette recommandation et quelle est l'opportunité d'un gouvernement d'union nationale? C'est le débat de ce soir. Trois invités participent à cette émission. Madame Angèle Makombo, participante aux concertations nationales, elle est présidente du parti politique Ligue des démocrates congolais, l'IDECO en sigle, membre de la plateforme de l'opposition dénommée Force de l'opposition réunie au Congo. C'est une plateforme qui soutient Léon Kengo Adondo. Madame Makombo, bonsoir.
Bonsoir.
Honorable François Nzekouye, député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD, il est aussi participant aux concertations nationales. Honorable Nzekouye, bonsoir.
Bonsoir, Alain Irung.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Irung.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Concertation nationale, les travaux au sein des États généraux sont bel et bien finis. Confirmation d'un membre du Présidium des concertations ce mardi à Radio Capi. Après plusieurs tractations, le groupe thématique gouvernance a finalement transmis son rapport au Présidium. Ce groupe, qualifié de transversal car traitant de plusieurs secteurs de la vie nationale, a examiné entre autres les questions de gouvernance, de démocratie, de justice et de l'État. Après plus de 3 semaines de travail, il en ressort une liste de recommandations contenue dans une trentaine de pages. Jacques-Yves Molima.
Toutes les parties se sont engagées à consolider la cohésion nationale et à sauvegarder les pactes républicains, notamment le strict respect de la Constitution. Aussi, à respecter des principes et valeurs qui fondent la gouvernance. Pour ce faire, certaines recommandations ont donné lieu à une ouverture des institutions. C'est entre autres la mise en place d'un gouvernement de large ouverture. Selon un délégué de la majorité, il ne sera pas question d'échanger les institutions établies, mais de les ouvrir à d'autres forces politiques. Bref, une gestion consensuelle de la chose publique. Dans une autre recommandation, les délégués demandent au gouvernement d'assurer le suivi du dossier judiciaire du sénateur Jean-Pierre Bemba auprès de la CPI. Cela dans le cadre des mesures de décrispation politique annoncées par le président. Dans le même cadre, les délégués demandent à obtenir de lui et du gouvernement d'accorder, selon le cas, la grâce présidentielle, la libération conditionnelle et ou une loi d'amnistie au bénéfice notamment de Coutinho Fernando, Eugène Diomindongala, Patrick Palata, Moïndo Nzangi, Firmé Yangambi, Eric Kikunda et Jacques Chaloupa. Ils invitent par ailleurs le gouvernement à obtenir que les personnes illégalement et irrégulièrement détenues sans procès soient purement et simplement libérées. Aussi, la réouverture des médias de l'obédience de l'opposition fermée, notamment RLTV et Canal Futur. S'agissant des membres du gouvernement, ils recommandent le renforcement de la lutte contre l'enrichissement illicite par le suivi permanent de l'évolution de leur patrimoine immobilier, financier et matériel. En ce qui concerne des questions spécifiques, notamment au sujet de la nationalité, ils demandent un débat national sur la problématique de l'ouverture de la nationalité congolaise. Pendant ce temps, que soit supprimé le visa de séjour en RDC à l'égard des étrangers d'origine congolaise. Enfin, en matière de tracasseries administratives, les concertateurs demandent la permutation régulière des agents commis au poste frontalier.
Merci Jacques-Yves Molima, Madame Angèle Makombo. Je rappelle que vous êtes participante aux concertations nationales, vous êtes présidente du parti politique Ligue des démocrates congolais, l'IDECO, membre de la plateforme de l'opposition dénommée Force de l'opposition réunie au Congo. C'est une plateforme qui soutient Léon Kengo Ouadondo. Madame Makombo, les concertations touchent presque à leur fin. Peut-on déjà tenter un bilan ou c'est trop tôt?
Oh non, on peut tout à fait tenter un bilan. D'abord, je voudrais faire une rectification. Le sigle de mon parti, c'est l'IDEC.
Merci.
Alors, voilà. Moi, je pense que non, on peut vraiment faire un bilan. C'était une initiative vraiment très importante, à un moment fort de la vie nationale du Congo, et ce forum, comme vous le savez, a été créé par l'ordonnance présidentielle de juin, qui demandait en fait quoi, de réunir toutes les couches socio-politiques du pays pour réfléchir et débattre, proposer des pistes, des solutions pour renforcer la cohésion nationale. Une cohésion nationale qui faisait défaut, et faisait défaut depuis déjà la fin des élections de 2011. Rappelez-vous, il y a eu beaucoup de frustration, un malaise politique. Suite à ces élections, il y avait beaucoup d'irrégularités. Et dès, d'ailleurs, son discours d'investiture, le président Kabila avait parlé d'ouverture. Donc, moi, je pense que bon, c'est une bonne chose qu'on ait pu se réunir comme ça, toutes tendances confondues. Ça s'est passé par moments avec des tensions et tout, mais ce qui nous a tous guidés, c'est l'esprit de consensus. Donc, on a fait un état des lieux. Moi, personnellement, j'étais dans la thématique économie, secteur productif et finances publiques. Et nous avons été tous guidés par l'esprit de consensus en faisant un état des lieux et en faisant des conclusions et recommandations. Donc, moi, je pense que toute œuvre est perfectible. C'était pas parfait, mais en tout cas, c'était très intéressant et très utile de se retrouver comme cela, toutes tendances confondues. Et dans ma thématique, il y avait des gens qui ont occupé des grandes postes de responsabilité dans ce pays, trois anciens gouverneurs, trois anciens premiers ministres, des gens en fonction.
Et donc le bilan est positif pour vous. Madame Akombo, je disais que donc le bilan est positif pour vous.
Oui, tout à fait positif pour moi, oui.
Alors en parlant de cohésion nationale, celle-ci passerait-elle nécessairement par la gestion consensuelle de la chose publique? On parle déjà d'un gouvernement de large ouverture.
Moi, à mon avis, cette idée, cette recommandation d'une gestion consensuelle, d'un gouvernement d'union nationale, n'est qu'une suite logique aux concertations nationales. Parce que nous étions là, nous avons fait un état des lieux qui était un exercice consensuel. Nous avons établi des conclusions, des recommandations par consensus. Je me dis que les mettre maintenant en application dans un cadre consensuel, ce n'est que la suite logique. Et il ne faut pas non plus oublier, je l'ai rappelé tout à l'heure, que dès son discours d'investiture en décembre 2011, le président Kabila parlait d'ouverture. Donc mettons nos intelligences tous ensemble pour justement mettre en application toutes ces recommandations qui ont été prises dans les cinq thématiques qu'on avait, pour effectivement renforcer la cohésion nationale, pour et c'est le but, c'était vraiment bien ça le but de l'exercice, pour étendre l'autorité de l'État et pour tenter de mettre la fin aux crises à répétition à l'Est, les souffrances, les violences, et je pense particulièrement au viol massif des femmes dans l'Est du pays, et contribuer enfin au redressement et au décollage de ce pays. Donc oui, un gouvernement consensuel, un gouvernement d'union nationale, c'est pour moi la suite logique des concertations nationales.
Alors madame, étant donné que c'est la suite logique des concertations nationales, pourrait-on dire par là que dès lors que vous y prendrez part, vous allez constituer la nouvelle majorité face à l'opposition qui constituait de ceux qui n'ont pas pris part aux concertations?
Je regrette effectivement qu'on n'ait pas tous été là. Je suis de l'opposition et certains de l'opposition ont choisi de ne pas y être. C'est dommage. Maintenant, la configuration exacte que ça prendra, c'est à voir. C'est pas à moi de décider. Pour justement constituer cette ce grand regroupement, ce grand gouvernement pour diriger le pays. Et je pense justement à un mot d'un de nos modérateurs qui disait maintenant que nous finissons nos travaux, nous constituons plus la composante majorité, la composante opposition, la composante société civile, nous composons une grande composante congolaise qui a à cœur de redresser ce pays. Donc, on espère toujours.
Donc, la nouvelle majorité.
On espère toujours que les autres qui n'ont pas voulu se joindre pourront se joindre quand même à cet effort de redressement national.
Alors, Madame Akombo, en parlant de ce gouvernement d'union nationale, de large ouverture, cela voudrait-il dire, en d'autres termes, que ça consacrerait l'échec de la gouvernance par le pouvoir actuel?
Nous avons eu à le dire, et moi personnellement, je l'ai dit sans contrainte, j'ai dressé à l'état des lieux lors de ces concertations, et nous avons eu à dire que tout n'a pas été évidemment négatif. Il y a eu des progrès qui ont été accomplis, il faut bien le reconnaître. Dans le domaine, en tout cas, la matière dont je me suis occupée, l'économie, nous avons bien vu que nous avons une croissance respectable, la stabilité du cadre macroéconomique, l'inflation stabilisée. Mais nous disions aussi qu'il y a eu des défaillances, par exemple, tout le monde était d'accord pour dire, bon, une croissance à 6%, 7%, oui, mais la pauvreté est toujours là, criante, les questions sociales n'ont pas été adressées, des priorités comme l'agriculture, on s'en est pas tellement occupé, donc il faut vraiment relancer la production, redynamiser le secteur productif. Merci. Et dans les autres domaines, c'était la même chose. Il y a eu des choses positives, mais il faut absolument conjuguer les efforts pour aller de l'avant et aller un peu plus vite qu'on l'a fait jusqu'à présent.
Merci, Madame Akombo. Honorable François Nzekouye, vous êtes député national de la majorité présidentielle, cadre du PPRD. Vous participez également aux concertations nationales. La même question qu'à Madame Akombo, qui parle, elle, d'un bilan positif. Quel est votre bilan, vous?
Je crois que c'est un exercice qui était intéressant parce que effectivement les filles et les fils du pays se sont retrouvés pour réfléchir sur l'état de la nation, diagnostiquer les problèmes que la nation connaît à ces jours et proposer des pistes et des solutions. Donc cela a été fait, a été bien fait. Et on ne pouvait pas s'attendre à autre chose, comme l'a dit Madame Angèle Makombo, que j'ai salué, qui était de notre groupe thématique, économie, secteur productif et finances, dont j'ai été un des co-rapporteurs. J'estime donc que c'est un succès. Le chef de l'État a bien vu. Il a invité les filles et les fils à réfléchir ensemble sans contrainte. La majorité de la population y a répondu. Il y a d'autres, dans l'exercice de la liberté, ont estimé que ça ne les intéressait pas, même si nous savons que ils ont réagi régulièrement par rapport à l'évolution de ces assises, ce qui est aussi une participation à cela. Donc, j'estime que les concertations nationales se sont tenues, ont vécu, et nous sommes convaincus que les résolutions qui viennent d'en sortir pourront amener un changement positif, en tout cas accélérer le développement du pays et le bien-être de la population.
Alors, les résolutions qui pourraient accélérer le bien-être de la population, il y a par exemple ce gouvernement de large ouverture, la gestion consensuelle de la chose publique, est-ce que ça passe par là?
D'abord, je dois rappeler ce que notre Constitution dit. Un gouvernement doit, les chefs de l'État désignent le Premier ministre dans la majorité parlementaire. Et donc, aujourd'hui, si ouverture il y aura, les chefs de l'État l'a déjà dit aussi, Madame Makombo l'a rappelé, dans son discours de l'ouverture, ou plutôt d'investiture, où il disait à son temps qu'il est prêt à travailler avec toutes les filles et tous les fils épris du Congo. Ce n'est pas une nouveauté, il l'a déjà fait dans le gouvernement Matata. Si, pour des raisons de cohésion nationale, il faut élargir davantage, il n'y a pas de souci. Mais nous ne sommes pas dans une optique de gouvernement d'union nationale qui est anticonstitutionnelle. Nous sommes avec une constitution qui consacre l'alternance politique. Et donc, c'est la majorité qui gouverne, les premiers ministres doit être issu de la majorité et les ministres, en principe, pour des raisons de cohérence, devrait venir de la majorité. Alors, si, comme je le disais, la cohésion nationale, qui est l'objectif ultime de ces concertations, exige qu'il y ait plus d'ouverture, parce qu'il y a des filles et des fils du Congo qui se retrouvent en dehors de la majorité et qui peuvent apporter un plus pour mettre en pratique les résolutions de ces concertations nationales pour que cessent les violences à l'Est, pour que la guerre de l'Est et la balkanisation soient une histoire du passé dans nos esprits, pour que les Congolais moyens puissent se nourrir correctement, que les Congolais puissent avoir des emplois décents, qu'il y ait une classe moyenne congolaise, qu'il y ait la paix et la concorde nationale. Nous n'y voyons pas d'inconvénient, même si nous disons encore une fois que pour des raisons de cohérence dans la gestion d'un État et l'alternance politique, l'idéal c'est qu'il y ait une majorité qui gouverne et une opposition qui attende l'alternance politique.
Nous allons prendre pour vous, honorable Nzekouye, cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Charles Mbouy de Kinshasa, dans la commune de Lemba, cynique et criminel et inacceptable, et proposer un éventuel gouvernement constateur qui ait une approche antidémocratique et anti-républicaine. Bref, quelle serait la nature et la fonction de ce gouvernement proposé par les opportunistes congolais?
Quelle serait la nature juridique de ce gouvernement?
Oui, ce que je vous dis, ce sera un gouvernement d'ouverture qui doit respecter la Constitution. Ça veut dire que le Premier ministre sera de la majorité. Il est possible que certains membres de l'opposition actuelle intègrent la majorité.
Pour former une nouvelle majorité.
Voilà, c'est une possibilité. Et dans ces contextes-là, à ce moment-là, les premiers ministres, s'il est choisi du rang des anciens opposants qui sont devenus majorité, ça ne pose pas un problème constitutionnel. Et donc, juridiquement, c'est faisable. Mais, comme je venais de le dire, je crois que pour être chef de file d'une majorité, il faut quand même en être membre, en connaître le rouage. Mais il ne me revient pas, moi, citoyen congolais, député national que je sois, je n'ai pas le pouvoir de dire au président de la République qui doit être premier ministre, qui doit gouverner le pays. Mais en regardant l'action gouvernementale aujourd'hui, depuis 2001 et les premières années du gouvernement Matata, nous estimons qu'il fait du bon travail.
Et qu'il faudrait le laisser continuer.
Oui, parce qu'on dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc j'estime qu'il a engagé des bons résultats. Peut-être qu'on peut ne pas dire autant de l'ensemble des ministres, qui auraient probablement quelques ministres défaillants, qui peuvent être remplacés pour renforcer l'action gouvernementale. Mais encore une fois, je viens de vous dire qu'il ne me revient pas à moi de décider. Il revient au chef de l'État qui a nommé le gouvernement Matata et qui doit l'apprécier et juger s'il vaut la peine qu'il continue ou qu'il soit remplacé ou qu'il y ait des aménagements internes. Cela dépendra du chef de l'État qui est garant de l'unité de la nation congolaise.
Professeur Bob Kabamba, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, un mot également sur le bilan des concertations nationales. Madame Makombo et l'honorable Nzekouye dressent déjà un bilan positif de ces assises.
Bonsoir les auditeurs et auditrices, bonsoir Monsieur Rong.
Bonsoir,
merci pour cette invitation à participer à ce débat. D'abord, je commencerai par dire qu'il y a un petit souci avec le momentum des concertations. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de concertation, il faut revenir à l'origine des concertations. L'origine des concertations revient après justement les accords de Addis Abeba et avec le problème qu'a posé le 1-23 justement en matière de cohésion nationale de la RDC. Donc les concertations se déroulent, vont toucher bientôt à sa fin. Et on n'a pas résolu le problème du 1-23. Si on n'a pas résolu le problème du 1-23, ça veut dire la question liée à la cohésion nationale n'est pas du tout résolue. Alors, on a parlé de cohésion nationale avec les concertations en essayant que tout le monde puisse y participer. Je remarque qu'il y a un gros problème du fait que tout le monde n'y participe pas, notamment toute une série des responsables politiques, notamment des forces politiques qui sont représentées au Parlement, qui ne sont pas partie prenante de ces concertations. Et donc cela augure toute une série de problèmes liés à l'objectif qui est la concertation nationale. Alors, avec ce momentum, se pose la question du statut, en fait, de celui qui est à la base du problème posé au niveau de la cohésion nationale, c'est-à-dire le 1-23. On va à la fin des concertations et on n'a pas encore résolu le problème du 1-23. Donc, je n'ose pas croire que tout le travail qui vient d'être fait par les différentes forces politiques et aussi par la société civile au sein de ces concertations ne sera pas remis en question lorsque l'on aura résolu le problème du statut du M23. Par ailleurs aussi, il y a un deuxième problème qui se pose, c'est qu'il y a une dimension internationale qui doit être partie prenante dans ces concertations qui est absente. Ça aussi, ça pose un problème. Comment ces recommandations qui vont être décidées par les concertations vont-elles être intégrées dans le cadre des accords d'Addis Abeba qui sont consolidés et qui ont force de loi avec la résolution 2090. Donc, en essayant simplement de mettre ça sur un calendrier simple, donc je pense que de manière froide, qu'il y aura un deuxième round de concertation, c'est-à-dire lorsque l'on aura fini avec les recommandations qui vont être adoptées par la plénière de cette concertation, et ceci va nécessiter l'implication d'autres parties prenantes que sont par exemple le M23, la communauté internationale, avec l'application des accords d'Addis Abeba avec la résolution 2090. Alors, sur la question que vous avez posée tout à l'heure par rapport aux autres intervenants, la question du gouvernement de consensus et d'union nationale, là aussi, il va y avoir quelques difficultés à pouvoir mettre ça en œuvre. Dans un premier temps, puisqu'il s'agit des résolutions. S'il s'agit des résolutions, ça veut dire à ce moment-là qu'il faut qu'il y ait une décision qui soit prise suite à ces résolutions. Alors, si on dit des décisions de prise à ces résolutions, ça veut dire, par rapport au gouvernement national, la démission de Matata devant l'Assemblée. Et à ce moment-là, reconstituer une nouvelle majorité qui va présenter un nouveau Premier ministre avec un nouveau gouvernement qui sera investi par le gouvernement. Alors, lorsque nous parlons de cohésion nationale, ça veut dire que les autres forces politiques qui sont représentées à l'Assemblée nationale, mais qui n'ont pas pris part aux discussions de concertation. Donc, de mon point de vue, donc nous n'aurons pas une espèce de gouvernement d'union nationale, mais nous aurons ce qu'on pourrait appeler une nouvelle majorité qui va pouvoir se constituer avec ceux qui auront participé à ces discussions de concertation nationale. Professeur, voilà encore à froid une première réaction par rapport à ce que vous m'avez demandé.
Alors, professeur, après toutes ces observations que vous relevez, peut-on dire que les concertations ont raté leur objectif?
De mon point de vue, les concertations n'ont pas atteint leur objectif. L'objectif, c'est la cohésion nationale. Ça veut dire, grosso modo, c'est que toutes les différentes forces politiques, mais aussi sociales du pays, participent à essayer de ressouder, de refaire une unité, une nation qui doit faire face à une agression qui vient du Rwanda et de l'Ouganda par rapport à la situation de l'Est du pays. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà sur base de cette question? C'est qu'on a plusieurs forces politiques qui sont absentes. Et non seulement ça, et le principal problème qui a amené à cette résolution d'avoir les concertations n'est pas présent. Alors, si cette force, le 1-23, n'est pas présente, et donc je crois qu'il y aura un deuxième round avec l'implication des autres acteurs qui ont été absents, notamment la communauté internationale, qui n'ont pas été présents au niveau de ces concertations, pour pouvoir valider et dire que ces différentes concertations et différentes résolutions répondent bien aux objectifs qui ont été définis dans le cadre de la résolution 2098. Et donc, moi, je prendrais beaucoup plus les recommandations issues de ces concertations comme une espèce de cahier des charges d'une nouvelle majorité qui va se mettre par rapport à ce qui va arriver dans un second temps.
Merci, professeur. Madame Angèle Makombo, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient d'Ouvira au Sud Kivu.
Blaise Nambouvira Dounia, j'habite la ville d'Ouvira dans la province de Sud-Kivu. Les politiciens congolais doivent avoir le respect envers la population. La concertation n'est pas égale au partage de pouvoir pour justifier la cohésion. Au contraire, c'est nous amener dans un état ingouvernable. Car gouvernement 1 plus 4, gouvernement de transition avec Mobutu et j'en passe.
Réaction Madame Akombo.
Je comprends que la population, d'ailleurs je la côtoie tous les jours, beaucoup sont très sceptiques. Ils ont été échaudés par d'autres assises, ils n'ont pas vu ce que ça apportait. Mais je continue à dire que les concertations nationales étaient vraiment un moment fort, c'était utile, et que ce n'est pas une fin en soi. C'est pas qu'on s'est réunis, on a pris des recommandations et que comme une baguette magique, la cohésion nationale va se faire. En son temps, d'ailleurs, l'opposition avait eu à dire que la cohésion nationale ne se décrète pas. Mais une fois le fait qu'on se soit réunis, qu'ensemble, par consensus, on ait pris ces recommandations, on va maintenant les appliquer. C'est dans leur application, c'est avec leur application qu'on va comme ça bâtir la cohésion nationale. Et il faut bien qu'il y ait une équipe qui mette en application les mesures qui ont été prises. Donc, tout en comprenant le scepticisme de beaucoup de nos compatriotes, je leur dis, vous avez un devoir de vigilance, de suivre et voir ce que ces recommandations vont donner. Et j'aimerais juste dire un mot par rapport à ce que le professeur Kabamba a dit, quand il a parlé de la communauté internationale, l'accord d'Addis Abeba, etc. Mais l'accord d'Addis Abeba ne dit pas autre chose, parce que quand elle donne des obligations à la République démocratique du Congo, aux autorités congolaises, elle leur demande de promouvoir le dialogue national. Et la résolution 2098 ne dit pas non plus autre chose que cela. Donc tout ceci est un processus. C'est pas qu'on s'est réunis, qu'on a sifflé la fin des concertations et que d'un coup de baguette magique, la cohésion va être au zénith. Nous devons tous y travailler.
Madame Akombo, il y a Baravuga Salomon qui dit « La cohésion entre politiciens ne doit pas se confondre avec la cohésion nationale, car la classe politique congolaise ne signifie pas nation congolaise. Ces amalgames amènent la confusion entre les institutions et les animateurs, socle même de la mauvaise gouvernance. Mobutu l'a très bien personnifié quand il a dit « La démocratie, c'est moi, et la République, c'est moi ». Il y a également professeur Norbert de la province orientale qui dit « Parler d'un autre gouvernement, quelle que soit sa nature, d'union nationale, c'est reculer ce pays. Ceux qui cherchent à s'enrichir au nom de la population, qu'ils attendent les élections. Pourquoi notre opposition pense que la seule solution de bonne gouvernance, c'est de changer l'homme, mais non de changer la mentalité de l'homme ?» Brièvement, je vous en prie.
Brièvement, je dirais que cette question a été au cœur aussi de nos débats. Nous avons parlé de redevabilité des gouvernants. Nous avons parlé de la nécessité de mettre fin à la culture de l'impunité. Nous avons parlé des devoirs des gouvernants. Donc, moi, encore une fois, je dis à la population, autant je comprends votre scepticisme, mais autant je vous demande de donner à ces concertations une chance, de voir en ces concertations nationales peut-être un nouveau départ pour ce pays. C'est un départ, c'est une route que nous allons parcourir, et non, on n'est pas encore arrivé au bout de la route parce que nous avons adopté des conclusions et des recommandations. Merci. Donc exercez votre devoir de vigilance envers les gouvernants, demandez-leur des comptes, et ne soyez pas comme à côté de la route en train de les regarder passer et leur donner des chèques en blanc. On doit mettre fin à cela.
Merci. Honorable Nzekouye, il y a Robert Kabandani de Bukavu Sud-Kivu qui dit « La formation d'un gouvernement d'union nationale est une bonne chose parce qu'elle va permettre aux membres de la majorité et ceux de l'opposition de se partager le gâteau, mais la question de l'heure, celle de mettre fin à la guerre de l'Est, restera sans issue. » C'est aussi l'avis du professeur Bob Kabamba que vous venez de suivre. Y a-t-il vraiment opportunité en ce moment d'avoir ce gouvernement d'union nationale ?
D'abord, il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale à l'Iran.
Ou d'ouverture, quelle que soit sa dénomination.
Oui. L'ouverture a un certain sens. Comme l'a dit encore une fois Madame Angèle Macombo, nous avons décidé que les résolutions ou les décisions de concertation se prennent de manière consensuelle. Nous comprenons la volonté de l'opposition de s'assurer que les résolutions de concertation nationale soient appliquées dès lors que les partis qui ont été auteurs de ces résolutions ne se retrouvent pas dans la machine qui va le mettre en pratique, ça semble donner de l'hypothèque ou dire que ça peut ne pas être réalisé. C'est cela en fait le sens de cette préoccupation. Mais je voudrais revenir, si vous me le permettez, aux préoccupations du professeur Bob Kabamba, que je connais très bien et que j'apprécie. Je crois que Bob Kabamba a eu un regard à lui sur cette question quand il dit que sans M23 il n'y a pas cohésion nationale, mais M23 n'est pas partie de la cohésion nationale. M23 ne veut pas de la cohésion nationale parce qu'il a un agenda extérieur. Je vous informe que depuis samedi, il y a 200 familles rwandaises expulsées de la Tanzanie qui viennent de s'installer à Jomba et à Chengerero avec l'appui du M23 pour pouvoir agrandir le nombre de Rwandais au Congo et des pro-Rwanda au Congo pour demander l'autodétermination de l'Est de la République et consacrer la balkanisation. Dis-moi Alain, qu'est-ce que nous pouvons dialoguer avec des personnes de cette manière-là qui ont un agenda clair pour balkaniser notre pays et qui ne veulent pas de la cohésion nationale? De deux, quand Bob dit que ces concertations n'ont rien à voir avec les accords d'Addis Abeba et la résolution 2098, c'est tout le contraire. Et encore une fois, je suis heureux aujourd'hui d'être très en harmonie avec ma collègue de l'opposition, Madame Angèle Macombo. C'est effectivement pour cela qu'il y a eu concertation. Parce que quand vous lisez les engagements pris par la République démocratique du Congo, ils reviennent sur la question de la réforme de l'armée, réforme de l'économie, décentralisation et autorité de l'État, démobilisation, réinsertion, ainsi de suite. Ces matières-là qui ont été objet de nos concertations, c'est-à-dire la volonté du gouvernement ou du pouvoir en place de mettre en pratique ces engagements pris au niveau international, qui, du reste, sont les engagements que les présidents de la République avaient déjà consigné dans son discours d'investiture. Donc c'est dire que aujourd'hui les concertations nationales ont atteint leur objectif, celui de réunir toutes les filles et tous les fils du Congo qui ont envie de voir ces pays unis. Ceux qui ne veulent pas voir les pays unis et qui veulent balkaniser, on n'a pas de raison de les inviter pour pouvoir dialoguer avec eux. La seule chose qu'on a dit, et les dialogues de Kampala continuent, c'est de dire les M23 doit déposer les armes pour montrer qu'ils sont de bonne foi. Mais cette bonne foi-là, elle n'est pas manifestée.
Et donc, ce gouvernement d'ouverture est opportun pour vous?
J'estime qu'il a son sens. J'estime, moi, en tant que de la majorité, que l'opposition devait attendre l'alternance politique. Parce que les élections législatives et présidentielles doivent se faire en 2016. Mais si nous estimons que cela peut encourager la cohésion nationale, qu'il y ait un peu plus d'ouverture, et qu'il y a des oppositions qui ont changé, qui sont convaincues aujourd'hui que l'action du chef de l'État les convainc, qu'ils ont de la majorité, il n'y aura pas gouvernement d'union nationale, il y aura élargissement d'un gouvernement face aux gens qui adhèrent à la même vision que nous.
Professeur Bob Kabamba, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Je suis Georges Bimpa de Bandalungwa dans la ville de Kinshasa. Quelle est la part du peuple congolais dans une gestion consensuelle du pays? Nulle part, c'est une confusion, juste un vrai partage du gâteau au détriment du souverain primaire. Ceux qui se prévaloir et défendre les intérêts du peuple doivent plutôt se préparer à l'alternance. Nous ne sommes pas loin de 2016, au lieu de chercher à chambouler tout dans 2 ans de l'échéance.
Et donc, pour cet auditeur, professeur, ce gouvernement, quelle que soit sa dénomination, n'est pas opportun.
Plusieurs choses par rapport à la question qui est une question pertinente. C'est-à-dire qu'en ce moment, lorsque l'on regarde un peu l'architecture politique de la RDC, on a plusieurs façons d'arriver au pouvoir, ou bien par les élections, ou bien par un groupe armé, et ou bien par des négociations que l'on mène dans les cadres de ce genre de forum. Donc la question telle qu'elle est posée, ça veut dire que pour arriver au pouvoir, lorsque vous n'avez pas été aux élections, vous n'avez pas un groupe armé, vous avez encore la possibilité de pouvoir utiliser les concertations pour pouvoir y arriver. Et je suis convaincu que pour une bonne part des discussions qui ont eu lieu au niveau de ces concertations nationales, c'est pour aboutir effectivement à une accession au pouvoir, à un partage de pouvoir, qui veut dire aussi partage de richesse, et aussi, veut dire aussi, grosso modo, se préparer par rapport aux prochaines séances électorales, si elles ont lieu, donc en 2016, comme l'a dit l'auditeur. Je voulais revenir aussi pour cette même question qui est liée au M23, en disant que si le M23 est qualifié de ce que l'honorable a dit tout à l'heure, alors pourquoi négocier avec le M23? Alors le gouvernement congolais n'a qu'à quitter Kampala en disant qu'il n'a pas envie d'avoir du M23, il a quitté Kampala et puis mettre fin à ces négociations et qu'on n'en parle plus et que le M23 est de la chose négative et qu'on n'en parle plus. Mais lorsque le gouvernement congolais va négocier avec le M23, mais qu'est-ce qu'on donne? On donne des crédits au M23, c'est à cause de l'attaque du M23 que nous avons eu tous ces problèmes au niveau de la RDC. Alors parler de la cohésion sans que la personne qui est à l'origine de ces problèmes n'est pas autour de la table, n'est bien pas faire ses recommandations. Et donc nous tournons en rond, nous allons recommencer tous les processus. Et demain, je ne doute pas un seul instant, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y aura un second round des négociations et des discussions par rapport à la concertation nationale, par rapport à la cohésion nationale, avec l'implication de la communauté internationale qui est partie prenante, et n'est pas uniquement observatrice, qui est partie prenante dans les cadres des concertations de tout ce qui se passe au niveau national, au niveau interne. Il y a deux dimensions au niveau de la résolution 2098. Vous avez une dimension interne et vous avez une dimension régionale et internationale. Et dans la dimension interne, il y a de manière très claire l'implication de la communauté internationale. Et quand on parle d'implication de la communauté internationale, c'est-à-dire que c'est la MONUSCO qui doit être partie prenante dans les discussions de la MONUSCO. Et je ne doute pas même un seul instant que par rapport aux recommandations qui seront peut-être adoptées par les concertations, je vous assure que ces recommandations seront soumises à l'organe qui est chargé du suivi de ces accords au niveau interne et qui va les juger, qui va les évaluer pour voir si ces recommandations participent à aide à faire évoluer les objectifs qui sont dans la résolution 2090. Donc, je ne serais pas étonné que d'ici quelques semaines et quelques mois, qu'il va y avoir deux nouvelles discussions pour que la communauté internationale représentée par la MONUSCO et d'autres partenaires soient partie prenante dans d'autres discussions pour arriver de manière très claire à répondre aux objectifs de 2098. Et donc ici, on n'a pas l'application de la communauté internationale, on n'a pas l'application de tous les acteurs problématiques qui mettent à mal la cohésion nationale. Et donc je n'ai aucun doute là-dessus que ces recommandations, du fait qu'il y a toute une série d'acteurs qui ne sont pas impliqués dans ces discussions, vont être remises en cause.
Merci. Professeur, en attendant ce deuxième round, comme vous l'appelez, des concertations, j'aimerais avoir une réponse claire de votre part autour de l'opportunité ou pas de ce gouvernement d'Union nationale. Brièvement, il nous reste moins de 7 minutes.
Pour ma part, le gouvernement d'Union nationale n'a pas de sens. N'a pas de sens. Pourquoi est-ce que le gouvernement d'Union nationale n'a pas de sens? Parce que tout simplement, si on doit parler du gouvernement d'Union nationale, il faudrait que tous les acteurs et toutes les forces politiques soient dedans. Or, toutes les forces politiques n'y sont pas. Et le principal acteur, je réinsiste, même si on dit que le M23, je suis le premier à dire que le M23 n'est que le fer de lance du Rwanda par rapport à une série de projets de conquête du Rwanda vis-à-vis du Congo, mais il est un fait que le gouvernement congolais négocie avec le M23 à Kampala, donne une légitimité au M23, et ces différentes forces, tant qu'elles ne sont pas impliquées dans les discussions et dans les concertations, un gouvernement d'union nationale n'a pas de sens. Ça veut dire simplement, pour ma part, il s'agit d'une nouvelle majorité qui va se constituer. Et merci. Nous aurons encore une nouvelle majorité avec une autre opposition, puisque l'UDPS n'y est pas, puisque l'UNC n'y est pas, merci. Puisque d'autres acteurs politiques qui sont représentés au sein des institutions congolaises n'y sont pas. Donc nous aurons une nouvelle majorité et nous auront aussi une nouvelle opposition. Merci, de manière très claire, je n'ai pas de doute là-dessus. Alors, à quoi bon faire un gouvernement d'union nationale qui n'implique pas tout le monde et qui va impliquer toute une série de gens qui ont participé à ces concertations et qu'on n'a pas le droit de l'appeler gouvernement d'union nationale.
Merci, professeur. Il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Quelques réactions des auditeurs et internautes. Junior Magnota, je pense à mon avis que les concertations nationales n'ont pas produit les résultats escomptés et les concertateurs ont passé outre leur mission. Je me demande s'il faut combien de verbes pour expliquer à l'homme politique congolais qui cherche toujours son intérêt privé. Le peuple congolais doit savoir qu'avant les concertations égale après les concertations. Mamboura de Goma en Nord-Kivu, gouvernement d'union nationale, oui, mais est-ce que celui-ci pourrait-il ramener la paix en RDC? Donc, ceux qui veulent entrer au gouvernement, ne seraient-ils pas ceux qui insécurisent notre pays? Stuart Kaliamuguma Moindo de Butembo, jusqu'où irons-nous avec cette immaturité politique et ce discours démagogique? En partant en concertation, l'opposition se disait y être pour renforcer la cohésion nationale et non pour un éventuel partage du pouvoir. Elle disait en outre qu'elle était hostile à toute modification de la Constitution, alors qu'aucune gestion consensuelle du pays n'est possible sans la révision constitutionnelle. Madame Makombo, nous attaquons la dernière partie de cette émission. Il faut déjà conclure. Le professeur Bob Kabamba insiste sur le fait qu'il pourrait y avoir un deuxième round des concertations entre vous, la nouvelle majorité, et les autres qui n'y ont pas pris part.
En tout cas, je n'ai pas une boule de cristal pour dire que être aussi affirmatif que lui. Tout ce que je dis, c'est que les concertations nationales, c'est pas une fin en soi, c'est un nouveau départ, c'est un processus. On a pris des recommandations, maintenant il faut les appliquer. Et je suis une personne de la base, je demande à ma base de se tenir au courant, de les lire, de tenir les gouvernants responsables. Et je ne suis pas de l'avis de ceux qui pensent qu'avant concertation nationale égale après concertation nationale. On a fait un état des lieux de façon consensuelle, des recommandations de façon consensuelle. Pour moi, c'est une suite logique que pour appliquer ces recommandations, qu'il y ait un gouvernement consensuel.
Il y a, madame, très brièvement, Ernest Mpararo, président de la Likokwa Kinshasa, qui dit « Nous proposons que le régime en place puisse continuer, qu'on organise simplement les élections générales présidentielles, législatives et provinciales en 2016, comme on l'avait fait en 2006.
Moi, je suis d'avis, parce que s'il n'y avait pas problème, on n'aurait pas eu les concertations nationales. Il y a eu concertation nationale parce qu'il y avait un réel malaise. Réel malaise, je l'ai dit, politique, au niveau économique et social, mais aussi la situation à l'est du pays. On s'est tous réunis pour y réfléchir, pour aboutir à des recommandations, tous ensemble, mettons nos intelligences ensemble pour pouvoir les appliquer. C'est tout ce que je dis.
Merci, Madame Angèle Makombo. Honorable Nzekouye, avant les concertations égale après les concertations, est-ce que vous partagez ce point de vue?
Non, je ne crois pas. Je crois, par contre, comme disait le professeur Bob Kabamba, qu'il y a un volet interne et un volet externe. Pour ce qui concerne le volet externe, c'est tout à fait normal qu'on puisse l'aborder, parce que aujourd'hui, il y a des problèmes avec des pays voisins. Il faudrait donc que les Congolais unis puissent aller dialoguer avec les voisins pour connaître leurs véritables motivations et permettre à ce que nous vivions en bon terme avec nos voisins. Alors, est-ce qu'il faudra un deuxième round interne? Moi, j'estime que le dialogue doit être permanent. Si les groupes de l'UDPS, encore que l'UDPS, je sais qu'il y a 20 députés de ce parti qui étaient avec nous et qu'ils ont tendance à renier toujours leur fils quand ils prennent des positions qui ne plaisent pas au leader Maximo, ça c'est une parenthèse, l'UNC, si nous estimons que vraiment la cohésion nationale doit passer par là, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on s'assoie autour d'une table avec les autres. Alors, je pourrait, pour conclure, voilà, en disant que les concertations nationales, en tout cas dans notre groupe thématique, après trois options majeures, la création des emplois et les plus de justice sociale, la poursuite de la reconstruction et le développement, mais surtout l'émergence d'une classe moyenne, et nous aurons le temps d'en débattre dans une autre émission.
Professeur Bob Kabamba, conclusion.
conclusion, c'est que je ne doute pas un seul instant qu'il va y avoir un deuxième round de concertation avec l'implication des différents acteurs qui ont été absents et surtout l'implication de la communauté internationale par l'entremise de tous les différents acteurs régionaux, je pense au président congolais de Denis Sassou Nguesso et d'autres intervenants comme Robinson qui pourront certainement intervenir. Et de ce deuxième round sortira effectivement un cadre de concertation nationale.
Merci madame, merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.